Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'épisode que l'Église met devant nos yeux à l'Évangile, en ce premier dimanche de Carême, fait la transition entre la vie cachée et la vie publique de notre Seigneur. 30 ans se sont maintenant écoulés depuis la naissance de Jésus à Bethléem. Notre Seigneur quitte la maison de Nazareth, et il se dirige vers le Jourdain, où Saint Jean-Baptiste administre aux foules un baptême de pénitence pour les préparer à la venue du Sauveur. Alors on peut s'étonner que notre Seigneur, qui est pur et saint, infiniment saint, se mêle à la foule des pénitents pour demander le baptême de Jean-Baptiste. Les pères de l'Église nous disent qu'il le fit pour 2 raisons. D'abord pour donner son approbation au baptême de Jean et ainsi pour inviter les Juifs à le recevoir. Et puis ensuite, surtout pour donner aux eaux qu'il touchait, la vertu de baptiser. Notre Seigneur, à ce moment-là, eh bien, va instituer le sacrement du baptême en étant baptisé dans le Jourdain. Baptême catholique. La Sainte Écriture nous dit alors que Jésus fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Notons bien que le premier acte que notre Seigneur pose après avoir quitté le Jourdain, c'est d'aller affronter le démon. Notre Seigneur est en effet venu sur terre pour combattre celui qui retenait l'humanité en esclavage. Dans ce corps à corps engagé pour notre salut, dit Saint Léon le Grand, une loyauté d'une étonnante rigueur fut la règle du combat. Le Seigneur Tout-Puissant, pour lutter contre cet ennemi, le plus redoutable qui soit, dépouilla son éclatante majesté pour endosser notre faiblesse, lui opposant même condition, même nature, mortelle comme la nôtre, mais sans nul péché. Et c'était aux matines de Noël que nous entendions ceci, ces paroles de Saint Léon le Grand. Et l'Église nous les faisait entendre pour nous enseigner pourquoi Dieu s'était fait homme, pour combattre le démon. Et aujourd'hui, eh bien voilà, elle nous montre Jésus engager la lutte. Eh bien nous aussi, à la suite de notre Seigneur, mais fort des grâces qu'il nous a obtenues par sa victoire, eh bien, nous avons été mis sur terre pour combattre. Et cela nous a été montré dès notre baptême par ces onctions d'huile sainte qui nous ont été appliquées par le prêtre sur la poitrine et entre les 2 épaules et qui rappelaient ces lutteurs de l'Antiquité qui s'enduisaient d'huile avant de combattre. Être baptisé, c'est entrer dans une arène pour combattre. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous obtiendrons la gloire du ciel en récompense de notre fidélité. Et comment est-ce que l'on prouve notre fidélité à notre Seigneur ? En restant unis à sa volonté, spécialement lorsque toutes sortes de tentations essayent de nous séparer de lui. Comme le dit saint Paul, c'est celui qui aura dûment combattu qui sera couronné. Alors bien sûr, ce n'est pas le bon Dieu qui envoie les tentations, mais le bon Dieu les permet pour nous donner l'occasion de lui prouver notre fidélité. Et en même temps, bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls. Il nous donne sa grâce pour nous en faire triompher. Il y a une parole très importante, très encourageante de saint Paul ici. « Dieu est fidèle, dit-il, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera les moyens d'y résister. » Si nous tombons d'ailleurs, c'est parce que nous restons avec nos propres forces et que nous ne prenons pas les moyens que le bon Dieu nous donne, sa grâce qui est là à ce moment-là. La vie sur terre est donc un combat, mais un combat contre qui ? Qui est notre ennemi ? En fait, nous en avons 3. C'est un combat 1 contre 3. La principale lutte du chrétien, c'est contre le démon qui est l'adversaire par excellence. C'est pour cela que c'est lui que notre Seigneur a voulu attaquer en premier, au début de sa vie publique. Le démon qui se croyait en sûreté sur cette terre dont il avait pris possession après sa chute. Ah, notre Seigneur vient pour le déloger. La menace du démon est constante. Dans sa rage contre le plan de Dieu, accompagné des mauvais anges, eh bien, il fait aux hommes une guerre sans relâche, sans paix, sans trêve. Le résultat, dira sœur Lucie de Fatima, c'est qu'aujourd'hui, les âmes tombent en enfer en tourbillon. Et c'est pour les sauver, justement, que Notre-Dame est venue à Fatima il y a 100 ans, établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Est-ce que nous répondons aux demandes de Notre-Dame pour sauver les âmes? Mais Satan a un allié puissant, il n'est pas tout seul, bien sûr il y a les mauvais anges, mais entre autres, il a un autre allié, c'est le monde. Le monde ici, ce sont les hommes qui se sont mis dans le camp du démon. Et notre Seigneur a aussi combattu le monde. On peut même dire que c'est le monde qui a crucifié notre Seigneur. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux de l'époque, tous deux ligués pour crucifier le Fils de Dieu, parce qu'il refusait sa royauté et son plan de salut. Et le monde aujourd'hui continue à crucifier notre Seigneur en persécutant son Église, en essayant de faire tomber les chrétiens. Et c'est le combat des deux cités dont nous vivons aujourd'hui la bataille finale, dit Notre-Dame de Fatima. Cependant, le monde et Satan qui nous sont extérieurs, et malheureusement, ils ont un complice dans la place, c'est-à-dire en nous. C'est notre nature, blessée par le péché originel, fragilisée, qui est très sensible aux tentations. « Je vois dans mes membres, dit saint Paul, une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Finalement, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Mais si, par la grâce de Dieu, eh bien, nous triomphons du vieil homme qui est en nous, alors Satan et le monde ne pourront rien contre nous. Comme le dit saint Augustin, « Tu n'as à craindre aucun ennemi du dehors. Remporte la victoire sur toi-même et le monde est vaincu. » Et Satan aussi. Alors, sans tarder, parlons maintenant des armes de la victoire. Saint Paul habille le chrétien avec tout un équipement militaire, celui des soldats romains de l'époque. « Ayez la cuirasse de la justice, dit-il. » Autrement dit, c'est là, très important, c'est l'accomplissement de tous vos devoirs qui vous protège contre les tentations comme une cuirasse. À l'inverse, c'est l'oisiveté et la paresse qui ouvrent la porte à toutes les tentations. On connaît la maxime. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et c'est pour cela que Notre-Dame n'a pas cessé d'insister dans son message de Fatima sur l'accomplissement de nos devoirs quotidiens et l'offrande de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion des pécheurs. C'est là, dit-elle, la grande pénitence que Dieu demande aujourd'hui et la condition fondamentale qui nous permettra de repousser le flot des forces du mal qui menacent de submerger le monde. Prenez le bouclier de la foi, continue saint Paul, pour ne pas vous laisser ébranler par les suggestions du démon et du monde qui veulent vous séparer de notre Seigneur. Avec la foi, vous saurez répondre. Coiffez-vous du casque du salut, c'est-à-dire gardez toujours l'espérance pour ne jamais vous décourager. Armez-vous enfin du glaive de la parole de Dieu par laquelle notre Seigneur a détruit toutes les avances du démon. Alors nous sommes maintenant armés comme de bons soldats, demandons-nous comment mener le bon combat. 3 points sont essentiels. Avoir dans le cœur l'esprit de compunction, lutter surtout contre le défaut dominant et ne jamais perdre de vue que le but est la charité, l'amour de Dieu et du prochain. La première disposition sur laquelle l'Église insiste spécialement pendant tout ce carême, c'est ce que l'on appelle l'esprit de compunction. Et cela a commencé dès le premier répond que l'Église fait chanter le mercredi des cendres. Réparons le mal que nous avons commis dans notre aveuglement, de peur que, soudain surpris par le jour de la mort, nous cherchions le temps de faire pénitence sans pouvoir le trouver, parce que c'est trop tard. Tournez-vous vers nous, Seigneur, ayez pitié de nous, car nous avons péché contre vous. Mercredi dernier, il vous a été parlé suffisamment de l'esprit de componction, mais tout le monde n'a pu venir, et puis c'est tellement important, redisons juste quelques mots à ce sujet. Pour le comprendre, il faut se rappeler que la vie chrétienne, c'est une vie d'union à notre Seigneur, c'est une vie d'amour de notre Seigneur. Eh bien, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on est profondément contrarié quand on l'a fait souffrir, bien sûr. Eh bien, c'est cela, tout simplement, l'esprit de componction. C'est un regret habituel d'avoir tant de fois fait souffrir notre Seigneur par nos péchés au cours de notre vie. Il n'est pas nécessaire de se rappeler des péchés en détail, mais c'est un regret global en disant, ben voilà, c'est pas brillant, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vous ai fait souffrir malgré toutes les grâces que vous m'avez données? Eh bien, lorsqu'on est en permanence dans cet esprit, c'est le meilleur remède pour ne pas retomber dans le péché, ou du moins pour se relever très vite si l'on est tombé par faiblesse. Ainsi dit Mgr Lefebvre dans un très beau livre qui s'appelle « La vie spirituelle ». Vous détesterez vos péchés alors et vos propres déficiences. Vous demeurerez dans un esprit de douleur de vos péchés, mais cette douleur sera provoquée par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sera pas une pénitence inefficace, une pénitence sombre et triste qui resserre le cœur, mais bien au contraire, cette pénitence-là vous dilatera le cœur par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, si l'on a ce regret de nos péchés passés, cela nous rendra généreux pour les réparer par la pénitence, spécialement pendant le carême, mais aussi pour faire pénitence toute notre vie. Le meilleur moyen d'acquérir et d'entretenir cette componction, ce regret habituel de nos péchés, bien sûr, c'est la méditation des souffrances de notre Seigneur pendant sa passion, par certains livres, en lisant les évangiles racontant la passion, en méditant les mystères douloureux, et puis aussi l'exercice du chemin de la croix, qui apporte très vite beaucoup de grâce dans ce sens. Alors, profondément contrit, regrettant profondément les infidélités de toute notre vie, nous serons aussi d'autant plus généreux pour nous corriger, pour entreprendre le combat spirituel contre nos défauts. Évidemment, nous en avons beaucoup, alors il faut procéder avec ordre. Il faut remarquer que chez nous, chez chacun de nous, en général, il y a un défaut qui domine les autres. Ce peut être le manque d'humilité, la paresse, la sensualité, le manque de patience, le manque de charité, etc. Eh bien, c'est ce défaut principal-là qu'il faut attaquer. Ce défaut, c'est comme le quartier général de la citadelle ennemie qu'il faut emporter de vive force. Les auteurs spirituels donnent ici trois conseils. La prière, parce que nous n'y arriverons jamais tout seuls. L'examen particulier, c'est-à-dire s'examiner chaque jour à propos de notre défaut principal pour voir comment il s'est comporté. Et ensuite, s'imposer une pénitence à chaque fois que l'on est retombé. Cela nous rendra plus attentifs et petit à petit, nous arriverons à faire des progrès par la grâce de Dieu. Et bien sûr, parallèlement, cultiver la vertu opposée à notre mauvaise inclination. Donc, esprit de componction qui nous rendra généreux pour faire pénitence, lutte contre le défaut dominant. Il reste le troisième point. Eh bien, ce carême portera des fruits si nous comprenons que le but de l'Église en instituant le carême, c'est surtout de nous convertir par la charité. Et je lis encore Mgr Lefebvre. Plus nous aurons conscience de l'amour du bon Dieu pour nous, plus nous aurons le désir de l'aimer. Et si nous l'aimons beaucoup, instinctivement, nous aurons une répulsion pour le péché, parce que le péché est exactement le contraire de l'amour de Dieu. Par conséquent, nous ne recherchons pas la lutte contre le péché pour la lutte contre le péché. Nous recherchons la pénitence pour arriver à une vraie charité envers Dieu et envers le prochain. Le but, c'est la charité, c'est l'union à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, au cours de cette messe, demandons à notre Seigneur, à Notre-Dame, que ce carême soit pour nous non seulement un carême de pénitence, non seulement un carême de lutte contre notre défaut principal, mais surtout un carême de charité. Par la prière, par la fréquentation des sacrements, par la lecture religieuse et par un redoublement de charité envers le prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.